m'a demandé aussi d'apporter quelques réflexions autour de la parole de Dieu. Et je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. Un texte qui nous place dans l'attente, mais dans une attente qui appelle notre responsabilité. Ce texte pourrait s'adresser directement à Eric, dans le cadre du ministère pastoral, mais ce texte s'adresse à chacun d'entre nous, dans le cadre aussi de ce que nous appelons le sacerdoce universel. C'est-à-dire que si nous reconnaissons des ministères particuliers dans l'Église, dans la communauté de Jésus-Christ, pour le bien commun de tous et pour faire avancer la communauté dans son témoignage et la faire vivre dans son témoignage, il n'en demeure pas moins que chacun, chaque personne, chaque individu qui appartient et qui dit appartenir à cette communauté, est engagé aussi dans le ministère, dans le service, quel qu'il soit. J'aime dans ce texte en particulier l'annonce qui est faite là de la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que nous pourrions être parfois dans le service, en tout cas, nous sentir obligés à quelque chose. Et ce texte, pour moi en tout cas, me donne de la liberté aussi dans le service, en même temps que de la responsabilité. Et j'espère que c'est ce chemin-là aussi qui s'ouvrira pour vous. Lisons ensemble à partir du verset 14. Jusqu'au verset 30, donc ces versets qui se trouvent dans Matthieu au chapitre 25. C'est Jésus qui parle du royaume de Dieu. Il dit en effet, il en va comme d'un homme qui partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit, Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu par peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers à mon retour. J'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Je vous invite à prier. À l'écoute de ta parole, Seigneur, nous voulons faire silence en nous-mêmes. Et laisser, Seigneur, ton Saint-Esprit agir dans notre intelligence comme dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que ta parole en nous trace des sillons dans lesquels tu laisses couler ta vie en abondance. Viens, Seigneur, travailler par ton esprit la dureté de nos cœurs et la dureté de notre intelligence. Nous affirmons et nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Conduis-nous par ton esprit maintenant dans ta vérité. Amen. Avec ce texte, nous sommes invités à rester en éveil, à être prêts en attendant le retour du ressuscité. Mais c'est difficile de rester en éveil. C'est difficile d'attendre, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est compliqué d'attendre. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer, et puis voilà, c'est comme là ce matin, et je m'en excuse encore, je suis arrivé avec un peu de retard, j'espérais arriver à 10h moins 5, et quelques détours ont fait que je suis arrivé après 10h. Et on s'interroge, savoir, il s'est perdu, il a oublié, voilà. L'attente amène plein de questions en nous-mêmes aussi. Et l'attente du retour du Seigneur, bien sûr, nous y croyons, mais elle amène plein de questions, parfois plein de doutes en nous-mêmes. Oui, nous attendons le retour du Seigneur, mais encore, faut-il savoir attendre ? Et surtout, comment occuper cette attente ? Comment occuper cette attente ? Parfois, on est dans la salle d'attente du médecin, du dentiste et autres. On ne sait pas quoi faire. Alors, heureusement, il y a les magazines et on feuillette. Mais on ne sait pas quoi faire, des fois, dans les salles d'attente. Et parfois même, on se regarde. Quand on est plusieurs, on se regarde. On ne se regarde pas ou on regarde ses pieds et autres. Voilà. Ce n'est pas de cette manière-là, en tout cas, que nous sommes engagés les uns et les autres dans notre vie de tous les jours à attendre le retour du Seigneur. Parfois, j'ai l'impression quand même qu'en tant que chrétien, oui, on regarde un peu ses souliers en attendant le retour du Seigneur. On se regarde plus ou moins et on attend. Et ce qui importe le Seigneur aussi, ce n'est pas encore ce qu'on fait, mais dans quel et avec quel état d'esprit nous attendons le retour du ressuscité. Jésus fonde ici l'attente de son retour sur une juste compréhension de la responsabilité que nous avons devant Dieu. Vous savez, la responsabilité, c'est cette capacité de savoir répondre de nos choix et de nos actes au regard de nos motivations profondes. La responsabilité, c'est ça, savoir répondre, respondare en latin, savoir répondre de nos choix, de nos actes, au regard de nos motivations les plus profondes. Qu'est-ce qui a motivé tel choix ? Qu'est-ce qui a motivé tel acte ? Qu'est-ce qui a motivé tel service. Et nous sommes invités à vivre notre vie maintenant au service du Christ de façon responsable, sans réserve, dans l'attente qu'un jour il reviendra. Et dans les chapitres 23 à 25, l'évangéliste Matthieu n'a de cesse de rappeler que les croyants en Jésus auront à faire face au danger de la persécution, aux faux prophètes ou aux bouleversements planétaires. Et ça a amené, depuis que l'Église est Église, après Jésus-Christ, il y a maintenant plus de 2000 ans, que les croyants soient attentifs à chaque signe. Et pourtant, Jésus rappelle que là, ces signes sont précurseurs, peut-être, et doivent nous permettre d'être en éveil, mais en éveil constant. Parce que, en fait, un autre danger guette le chrétien. Un danger encore plus insidieux, me semble-t-il, que celui que j'ai mentionné, que ceux que j'ai pu mentionner auparavant. L'apathie. L'apathie. Pas Jean-Michel, hein, sur RMC, hein, pour ceux qui suivent. Non, non, l'apathie. Vous savez, cette capacité à l'inaction, capacité au désengagement, chemin de la facilité et de la paresse. L'histoire des trois serviteurs de notre texte nous est, somme toute, assez familière pour nous qui avons l'habitude de lire la Bible et les évangiles. On sait que ces trois serviteurs sont chargés de responsabilités à des degrés divers. Et le texte, le rédacteur a bien pris soin de préciser ici que c'était selon leurs compétences et leurs capacités. C'est-à-dire que le maître ne leur a pas imposé un service dont ils savaient qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir l'assurer. Une responsabilité qu'ils n'auraient pas pu assumer. Il donne à chacun en fonction de ses capacités. Il n'y a pas un ordre non plus de hiérarchie en se disant celui-là est meilleur ou pas. Il donne à chacun selon ses capacités. Et les trois serviteurs, tous les trois, sont censés agir comme de bons intendants en investissant les ressources que le maître leur a confiées et de le faire à bon escient. Responsabilité que le serviteur mauvais et paresseux n'a pas voulu assumer. Parce que le texte ne nous dit pas qu'il n'a pas pu l'assumer. Puisque c'était selon ses capacités, donc il était capable de pouvoir assumer au moins ce minimum. Mais il n'a pas voulu assumer. Et le jugement du maître n'est pas posé sur la quantité du travail rapporté, mais sur la qualité du serviteur. Le jugement du maître n'est même pas posé sur la qualité du travail effectué, mais sur la qualité vraiment du serviteur lui-même. Le maître, à son retour chez lui, ne salue pas l'esprit capitaliste des serviteurs, mais il loue chez eux leur bonté et leur fidélité. Leur bonté et leur fidélité. Et le texte qui a été écrit en grec permet de dire que fidélité, c'est aussi la foi. La foi dans le maître, le fait de croire le maître aussi. Ce qui est reproché au troisième serviteur, c'est en fait sa mauvaise appréciation du maître et sa paresse. En fait, le troisième serviteur n'a pas su apprécier, n'a pas su comprendre qui était vraiment son maître. Et il colle au maître des qualificatifs que le maître reprend en disant « Puisque c'est comme ça que tu me vois, alors C'est comme ça que je vais devoir agir vis-à-vis de toi? Est-ce que c'est comme ça que tu me vois? Oui, je peux être cela. Mais c'est comme ça que toi, mon serviteur, tu vois que je suis? Et ça nous interroge sur notre manière dont nous pouvons considérer qui est Dieu pour nous. Dieu nous fait le don de la vie, à tous et à chacun. Dieu confie le don de la vie, sans exception, aux uns aux autres. Nous faisons grâce alors peut-être de diverses autres ressources, dont la liste est plus ou moins longue suivant les personnes, avec les talents, les dons qu'ils ont pu recevoir ou qu'ils font progresser. Mais à tous, nous avons reçu le don de la vie. Et à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu la grâce surabondante, l'amour extraordinaire de Dieu dans notre vie. Et la question, c'est de savoir qu'en faisons-nous dans notre compréhension de qui est Dieu pour nous, de qui il est pour nous. Parce qu'il nous incombe de savoir comment utiliser tout ce que Dieu a mis dans notre vie, chacun, les uns et les autres, sans avoir à regarder ce que l'autre aurait de plus que nous ou pas. La question n'est pas là. Dieu a posé en nous et en chacun d'entre nous le don de la vie, sa grâce. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? La conclusion de cette histoire pourrait paraître choquante. Après tout, l'homme qui enterre les talents reçus tente de préserver ce qui lui a été donné, au moins, en disant « on va pas me le voler ». Mais c'est même pas « on va pas me le voler », c'est « on va pas le voler au maître ». Parce que ce qu'il considère, c'est que c'est son bien, le bien du maître. Il ne se l'est pas approprié pour lui-même. Aux yeux de Dieu, enterrer ce trésor confié est la pire des choses que nous pourrions choisir de faire avec. Car Dieu croit en nous. Oui, Dieu croit en nous. Il nous fait grâce de dons, de ressources, de richesses intérieures, parce qu'il nous croit capables de les mettre à profit pour les autres, en bénissant les autres, en participant à notre mesure, à l'avancement de son royaume. Pas simplement de recevoir le trésor et de l'enfermer quelque part, mais de le partager, d'avoir cette créativité aussi pour partager cette grâce que nous avons reçue, les uns et les autres, de quelque manière que ce soit. Et vous-même, dans votre entourage, vous allez trouver le moyen de dispenser cette grâce de Dieu, cet amour que Dieu a mis en vous, d'une manière à le multiplier, à le faire progresser dans la vie des autres. Oui, Dieu croit en nous. Dieu croit que nous sommes capables d'étendre la bénédiction que nous avons reçue à d'autres. Parce que si nous nous disons bénis, c'est-à-dire que Dieu nous donne du bien, dit du bien, fait du bien sur nos vies, ce n'est pas pour que cette bénédiction, nous la gardions juste pour nous, mais c'est pour la dispenser, la donner aussi à d'autres. Nous sommes bénis pour bénir, pour dire du bien des autres, pour vouloir le bien des autres, pour agir bien vis-à-vis des autres. Enterrer notre trésor, c'est tout simplement négliger et trahir la confiance que Dieu place en chacun d'entre nous. Donc si la parabole semble juste ou non est sans importance, ici en tout cas c'est sans importance, il nous est demandé de travailler sur ce trésor que Dieu nous a confié et d'examiner aussi comment le mettre à profit pour lui, à travers un service pour les autres. Dieu croit et espère en nous. Et il espère que nous utiliserons ce trésor de sa grâce bien, pour le bien. Jésus nous a montré l'exemple en choisissant le chemin de l'engagement, d'une action qui coûte. Et c'est avec ce même état d'esprit-là que nous sommes encouragés à vivre notre vie chrétienne, selon aussi ce que l'on peut lire de la part de Paul dans Galates 5 sur les fruits de l'esprit, qui doivent grandir aussi en nous, être en nous. La bonté, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Martin Luther a dit ceci, « Travaillez comme si Jésus ne reviendra pas pendant les 1000 prochaines années. Et soyez prêts comme s'il devait venir aujourd'hui. » Travaillez comme si Jésus ne reviendra pas pendant les 1000 prochaines années. Et soyez prêts comme s'il devait venir aujourd'hui. Nous sommes encouragés à vivre notre foi, non pas juste la tête levée en disant « j'attends que le Seigneur revienne ». Il reviendra. Il a dit, il reviendra. Charge à nous, non pas d'attendre béatement, comme d'ailleurs les disciples qui ont vu monter le Seigneur et à qui il leur a été dit, maintenant vous allez, hein, allez faire des disciples, allez porter cette bonne nouvelle aussi à d'autres. Restez pas là béatement. Ce que nous avons reçu, la bénédiction que nous avons reçue. Si nous ne sommes pas prêts à aller vers l'extérieur, qui va la porter? Qui va la porter? Dieu attend de ses serviteurs, de chacun d'entre nous, à la mesure que nous avons, avec les capacités que nous avons, que nous soyons porteurs à notre tour de cette bénédiction auprès de celles et ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Pour terminer, permettez que je cite un extrait de la règle de Reuilly. J'ai le privilège d'aller régulièrement pour animer des cultes auprès des diaconesses protestantes de Reuilly qui ont un engagement non seulement en tant que communauté, mais un engagement aussi auprès des personnes en difficulté avec notamment des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons d'enfants aussi. Et voici ce qui est dit dans cette règle de Reuilly, et que je nous laisse là à la méditation. Et après cette lecture, j'inviterai un temps de silence. Et le sens d'autrui planté en toi comme un aiguillon, car le temps presse. Engage toutes tes ressources de volonté, de courage et d'intelligence pour alléger le fardeau de tes frères. Ne mesure pas ta vie à ce que tu donnes ou réussis. Ne la mesure qu'à la tendresse sans mesure de Dieu, qui a ployé sous le malheur en son Fils Jésus-Christ. Sois fidèle jusqu'à l'extrême et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ou se réjouir une heure à ta lumière. Je vous invite, dans le silence, à vous recueillir devant le Seigneur.